Eh bien, si c'est un temps de reconnaissance, alors je voudrais être reconnaissante pour Pasteur André et Michel. C'est vraiment un plaisir pour François et moi d'être autour de ce couple, parce que je sens vraiment une onction de sagesse, d'intelligence, de guérison qui coule d'eux. Alors on aime bien, hein, n'est-ce pas François? On aime bien être autour d'eux et ça a été vraiment un plaisir d'être avec eux. Ça a été un plaisir d'être ici depuis hier. Et notre église était tellement contente que nous soyons ici. Alors, on a vraiment l'impression que l'Alsace et Aubergenville sont unis ce matin parce qu'ils sont là et ils pensaient à vous. Alors, pensez à eux aussi là-bas. Et vendredi, on va nous aussi fêter la Thanksgiving. C'est une journée où on veut louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au cours de l'année, toutes ses bénédictions. Et on veut se souvenir que Dieu nous bénit. Il nous bénit de temps en temps, on nous bénit à l'occasion. Dieu nous bénit tout le temps. Et il est important de vraiment découvrir ces bénédictions. Et pendant que Pasteur André citait Ésaïe 61, il disait qu'on allait avoir le double. Bien, j'aimerais oser ce matin dire que non, peut-être le triple. Parce que la prédication, c'est multiplie. Qui veut le double? Qui veut le triple? Qui veut plus? Alléluia. Et pendant que ma sœur parlait de la reconnaissance, je me suis souvenue de cette histoire avec mon fils. Il y a de ça bien des années. Il était jeune, il avait 15 ans, adolescent. C'était une soirée d'intercession. Et on dit, oui, vraiment Joseph, on veut que tu participes à cette intercession. Tu vas prier pour les autres et tu intéresses-toi pas à toi. C'est prie pour les autres. Alors, tout au long de la soirée, il est là, il prie, puis vers la fin, on dit, bon, c'est bien, là, maintenant, tu peux prier, demander au Seigneur ce que tu as envie. Alors, il dit, Dieu, il n'était pas très, notre Père, plein d'amour, je voudrais vraiment te demander, Dieu, je veux procéder. Je dis, oh, Seigneur, entends sa prière. Et puis, le lendemain matin, c'est tout, ça finit comme ça. Dieu, donne-moi 3 CD. 3 CD, la musique. Alors, le matin, je vais à la poste et voilà qu'il y a un paquet. Joseph Gendron. Je fais, oh Joseph, t'as reçu un paquet. Alors, il ouvre et c'était les 3 CD qu'il avait demandé. Mais, tu sais, il ne nous avait pas dit lesquels. Il dit, mais c'est les 3 CD que j'ai demandé. Plus, il en avait un quatrième qu'il avait déjà. Alors, j'ai dit, ben, c'est bien, t'as reçu et t'as quelque chose à donner maintenant à quelqu'un. Il dit, ah oui, je vais donner à tel garçon, tel ami. Alors, finalement, c'est lui qui avait envoyé les CD, il arrive quelques semaines plus tard, c'est un jeune homme du Colorado. Alors, on lui raconte l'histoire. Alors, il dit, ah, c'est bien. Il retourne au Colorado quelques temps plus tard, il va au magasin où il avait acheté les CD, il a dit, il raconte l'histoire. Alors, l'homme du magasin dit, oh, wow, et il lui donne... Il va chercher un grand carton rempli de 65 CD. Il dit, allez, va lui redonner ça. Alors, on s'est retrouvés avec 65 CD. Alors, on était là, on distribuait les CD. Alors, Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu aime multiplier. Quand on va vers lui, quand on lui demande, Seigneur, le Seigneur veut nous donner, mais toujours plus que ce qu'on lui demande. Et lorsqu'on apprend à donner ce qu'il nous donne, finalement, je crois qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, dans Genèse, chapitre 1, verset 28, ça dit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. » Alors, je vais vous expliquer ce matin, notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Notre Dieu est un Dieu de moisson. Et Dieu veut nous bénir. Il est très, très important de comprendre à quel point Dieu veut nous bénir. Et pas seulement quand je pense à Dieu, je veux vraiment nous aider à saisir que, ben moi j'ai reçu ça en tout cas, je voudrais vous le partager, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit veulent travailler ensemble pour nous multiplier. Ils veulent travailler ensemble pour que nous soyons féconds. Et il va falloir peut-être apprendre à travailler à la fois avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit là-dedans. On a quelquefois de la difficulté à saisir et à faire la différence entre les trois. Et j'ai voulu un peu chercher un peu plus loin dans cela. Et si je vous dis le Père, Je voudrais vous lire avant 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Ça dit « Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Alors, c'est ma prière aussi ce matin. « Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Alors, on voit que ici, Paul séparait. Il disait que ce soit la grâce de Jésus-Christ qui soit sur vous, que ce soit l'amour de Dieu qui soit sur vous et la communication du Saint-Esprit. Alors, on voit que les trois travaillent de différentes manières pour nous bénir, pour faire couler sur nous une grâce, pour faire couler l'amour, pour avoir une communication avec le Saint-Esprit. Alléluia! Alors, quand je pense au Père, que pensez-vous lorsque vous pensez au Père? Le Père, il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Mais une chose que moi qui me touche, il y a d'autres personnes peuvent penser à un mot qui sort lorsqu'ils pensent au Père. Comment? Il y a un pourvoyeur. Protection. Pardon. Il veut une relation. Il est un créateur. Oui. Protecteur. Bon, c'est bien. Autorité. Une chose que je vois, moi, c'est surtout... Bon, oui, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Il est le Père. Il est le Père protecteur, rempli d'amour. Il veut nous entourer. L'amour est très important. Il est celui qui amène l'amour éternel. Mais je vois la volonté du Père. Jésus, il parle souvent de sa volonté, la volonté. Je veux faire la volonté du Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Il dit, ce n'est pas ceux qui font des grandes choses, qui sont appelés, qui font partie du royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. C'est ce qui est écrit. Alors, Dieu cherche, il dit, ceux qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère, sont ceux qui font la volonté du Père. Et donc, Dieu veut que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Parce que lorsqu'on a la connaissance de sa volonté, tout d'un coup, ça dit qu'on marche d'une manière digne et on porte des fruits. On se met à porter des fruits lorsqu'on est rempli de la connaissance de sa volonté. Et quand je suis rempli de la connaissance de sa volonté, bien finalement, ça me donne un sens à ma vie. Ah, je sais là pourquoi... J'exige, je sais ce que j'ai à faire, ça me donne une direction. Et parce que ça me donne une direction, parce que là, maintenant, je sais pourquoi je suis appelée, je sais quelle est ma place sur terre, ça me donne de l'espérance. Ah, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à accomplir. Et Dieu dit, il est appelé le Dieu de l'espérance, il dit, il est le Dieu de l'espérance. Et Dieu veut nous remplir de toute espérance, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Et de toute paix dans la foi en Jésus-Christ pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble, mais ce qui est plus attaché à Dieu, c'est l'espérance aussi. Donc, de la volonté, on va être rempli d'espérance. Et Dieu veut pas, il a dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse d'un petit peu de joie. De toute joie et de toute paix. Pourquoi? Pour que vous abondiez en espérance. Il veut qu'on abonde, on veut qu'on soit tellement rempli d'espérance que cela va vraiment dramatiquement changer les gens autour de nous. Ça va redonner de l'espérance. Et surtout dans ce temps de Noël, il est temps d'amener de l'espérance autour de nous. Dieu veut que nous ne soyons pas remplis de « Oh, j'espère que... » Oh, j'espère que j'aurai ceci ou cela. Non, Dieu veut que vous soyez presque en train de sauter en disant, oh, je suis remplie d'espérance. Oui, Dieu va accorder cela dans ma vie. Je suis excitée de comment il va le faire. Je l'attends. Dieu veut comme ça. Et ça dit par la puissance du Saint-Esprit. Donc, on sait que Dieu va faire de grandes choses. Et donc, on voit que c'est le travail de Dieu, le Père, au travers de sa volonté. Il veut qu'on soit rempli d'espérance. Quand je pense à Jésus, qu'est-ce que ça vous fait penser, Jésus? Obéissance. Je vous fais travailler ce matin. Hein? Comment? Merci. pense à la parole. Jésus, il est la parole faite chair. Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela va vous être accordé. Le Père veut que vous soyez remplis de fruits. Il dit, demandez et vous recevrez et afin que vous ayez beaucoup de fruits pour que mon Père soit glorifié. Donc, le Seigneur veut qu'on soit rempli de la parole, qu'on soit nous-mêmes remplis de sa parole, que nous demeurions dans sa parole. Et si vous lisez le livre des Actes, ça dit que la parole se répandait. Elle se répandait, il y avait une multitude de disciples qui obéissaient à la parole. Donc, on voit que Dieu veut qu'à la fois la parole, on soit rempli de cette parole, que finalement nous soyons en même temps dans la parole, qu'on devienne nous-mêmes parole qui devient chair, qu'on se met à vivre la parole. Ce n'est pas seulement écouter la parole, lire la parole, citer la parole, mais c'est tout d'un coup comprendre la parole, une parole qui est changée, qui nous transforme, on se met à obéir. On a parlé d'obéissance. Qu'on se mette à obéir à la parole. Parce que la parole, quelquefois, elle est au-delà de notre pensée. On dit, mais c'est pas possible, je peux pas mettre ça en pratique, c'est inimaginable. Et puis quand on dit, bon, finalement, Seigneur, même si j'arrive pas, je prends la décision d'obéir à cette parole. Mais au moment où on obéit à la parole, c'est finalement le moment où on apprend à vivre. C'est le moment où tout d'un coup on vit. C'est le moment où on entre dans le royaume des cieux. C'est le moment où tout d'un coup tout change. Parce que là, la parole se met à vivre. La parole qui est Jésus. Tout d'un coup, Jésus commence à être en nous et elle nous fait vivre. Et là, on voit Dieu agir. Et je me souviens il y a des années au Québec, j'étais une bonne chrétienne. Hein, j'allais à l'église, j'étais fidèle. Hein, l'église était, on avait beaucoup de cultes. Mais un jour, il y a eu un changement. Le jour où j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne lirai plus ta parole comme avant. Je vais maintenant écouter ta parole et vivre ta parole. Je vais obéir à ta parole. À ce moment-là, j'ai découvert un autre Dieu. Je suis entrée dans le royaume et j'ai vu Dieu agir. Dieu a changé. Il est devenu ce Dieu qui est grand, qui est bon, qui est fidèle, qui est puissant, qui est autour de moi, qui est présent. Et ma vie est devenue une vie d'aventure. Au tout début, j'avais l'impression de faire les montagnes russes. Je faisais « Wouh !» J'avais peur, les choses semblaient s'enlever de sous mes pieds. Mais j'ai commencé à vivre. J'aimais ça. Au tout début, j'avais peur, mais après ça, j'ai appris à aimer l'aventure avec le Seigneur. Oh, il nous en fait vivre. Après, la vie n'est plus du tout ennuyante. La vie chrétienne, c'est une vie d'aventure. Alors, hein, je suis partie du Québec, on est parti, on est allé vivre aux États-Unis. J'ai appris l'anglais, moi qui avais une peur bleue de l'anglais. Alors, il m'a dit, bon, on va à l'université en anglais. Alors, oh! Il m'a fait vivre des choses et j'ai vu un Dieu présent avec moi tout le temps. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on apprenne à vivre avec lui, en lui. Et Jésus est là, il est là. Sa parole, qu'est-ce qu'elle fait aussi quand la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Lorsque je suis en Jésus-Christ, la foi commence à grandir. Et la foi, comme je vous ai dit, nous fait sortir de nos limites. Parce que nous, on est bien limités, les petits êtres humains, on est là, on s'est enfermés, on dit « moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller plus loin ». Et le Seigneur vient faire tomber les limites et nous fait vivre des aventures. Jamais j'aurais cru que j'apprendrais l'anglais, jamais j'aurais cru que j'aurais vécu aux États-Unis, jamais j'aurais pensé, imaginé que je viendrais un jour en France. Mais Dieu, quand on commence à le laisser la parole, il nous remplit de foi pour faire des choses qui sont extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Alléluia! Il y a aussi sur Jésus une grâce abondante qui coule. Parce qu'on a des faiblesses, mais le Seigneur est là. Il dit non, je suis avec toi. Et cette grâce coule, elle coule sur nous. Elle nous relève à chaque fois. Il nous dit va plus loin, sors de tes limites. Et cette grâce coule, elle est là pour nous. Et elle n'est pas un peu de grâce, c'est vraiment une grâce abondante. Et le Seigneur veut vraiment déverser cette grâce sur nous. Alléluia! Donc, on voit Dieu qui veut qu'on abonde d'espérance. La grâce abondante de Christ vient couler sur nous pour que nous vivions, nous soyons. croyons la parole et que cette parole se multiplie, se répande. Elle multiplie, fait les disciples. Ça, c'est leur œuvre. Ils veulent le vivre au travers de vous parce qu'ils sont comme ça, ils sont appelés. C'est leur nature et ils veulent le démontrer dans votre vie. Ensuite, le Saint-Esprit. On a vu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand vous pensez au Saint-Esprit, qu'est-ce que vous pensez? Conseil. Consolateur. Et aussi, un peu, la puissance. La puissance, hein? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En effet, le Saint-Esprit, il est là, il nous console, il est autour de nous, il nous fortifie, il est là pour venir à l'intérieur nous donner de la force, nous faire tenir ferme. Il est là pour être avec nous à l'intérieur et à l'extérieur et nous rend capables de faire des choses. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il nous accorde, il nous donne des dons, différents dons, et il nous apporte aussi des fruits, toutes sortes de fruits. Le Saint-Esprit, il est rempli, ça dit qu'il est rempli d'amour. Et c'est cet amour, je vais vous le lire. Attendez un peu. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On sent vraiment l'amour qui est en nous lorsqu'on a le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous remplit, qu'est-ce qui nous arrive? On est capable de communiquer. Il est le communicateur, celui qui communique à la fois avec Dieu. Il vient à notre aide dans nos faiblesses pour qu'on communique avec Dieu. Mais il nous donne aussi cette capacité de communiquer avec les autres, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est là, il est pour nous aider à être des témoins efficaces. Donc le Saint-Esprit, son travail est surtout au travers de notre relation avec les uns et les autres. Alors les trois, on peut dire qu'ils sont saints. Vous êtes d'accord avec moi? Saint. Saint, c'est le contraire de profane. Saint, c'est mis à part. Et ils sont là pour qu'on puisse nous servir à la gloire de Dieu. Et si je penserais que le Père travaille particulièrement avec notre esprit. Lorsqu'on est, grâce à Jésus, lorsqu'on est de nouveau, tout d'un coup, notre esprit revient à la vie. Et là, on a une relation avec le Père. On peut maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y a cette relation maintenant avec le Père qui où il apporte sa vie en nous. Et Dieu, le Père, il est intéressé à ce que l'esprit en nous, il est jaloux de notre esprit, il le protège, il aime l'esprit qu'il a déposé en nous. Et il veut que l'esprit croisse et prenne de plus en plus de place dans notre vie. Moi, je vois vraiment Dieu qui travaille avec l'esprit. Je vois Jésus qui travaille avec mon âme. On a parlé d'humanité. Jésus, je crois qu'il est amoureux de mon âme. Il est amoureux de votre âme. Il est amoureux de votre personnalité. Vous êtes unique. Il ne veut pas que votre personnalité soit souillée. Il veut vous sanctifier par la parole. Il veut que vous soyez vraiment dans vos pensées, que vous soyez guéri dans votre manière de penser. Il veut que vos pensées reflètent vraiment qui vous êtes. Parce que lui, c'est-à-dire un seul de vos regards le rend tout dans les actes. Dès que vous le regardez comme ça, le Seigneur fait « Oh, regarde-moi pas comme ça, ma belle ou mon beau. » Je crois qu'il est amoureux. Alors, on peut vraiment venir dans sa présence. « Seigneur, j'ai besoin de toi. Veux-tu m'aider? » Alors, on fait les beaux yeux comme ça et le Seigneur, il est là. « Mais oui, je suis là. » Et il est là pour purifier notre manière de penser. Il est là pour purifier nos émotions, nos sentiments. Il veut qu'on soit pleinement restauré. Il est là pour nous aider dans nos choix, parce qu'il veut que nos choix reflètent sa gloire. Alors, et son travail, ça dit dans Éphésiens chapitre 5, il aime l'Église. Il cherche à la sanctifier pour qu'elle soit sans rides. Ça veut dire qu'elle n'ait pas les effets du passé dans sa vie. Qu'elle ait cette beauté, que tout ce qui est arrivé dans sa vie ne vienne pas détruire son présent, son aujourd'hui. Alors, il est là pour la purifier, la sanctifier. Ce qu'il veut, c'est qu'elle soit glorieuse. Voulez-vous travailler avec le Seigneur pour être sans rides, sans tache, irrépréhensible, glorieux? Moi, oui. Amen. Les trois sont là et lui, il est là pour travailler afin que notre âme soit vraiment une âme resplendissante, heureuse, restaurée, épanouie. Jésus prend soin de nous, il nous nourrit, il aime nous gâter. Moi, je veux les laisser faire. Alléluia. Et le Saint-Esprit, moi, je crois qu'il travaille surtout avec notre corps. Il est, ça dit que nous sommes le temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut habiter en nous parce qu'il veut agir au travers de nos yeux. Il veut agir au travers de notre bouche. Il veut agir au travers de nos mains. Il donne des dons. Pourquoi? Il donne des dons de sagesse. Il donne des dons de prophétie. Au travers de quoi? Ça va venir de quoi? De ma bouche. Alors, il veut utiliser mon corps. Quand je vais prier pour les malades, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mes mains. Quand je vais aller évangéliser, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise mes pieds, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, le Seigneur veut utiliser mon corps qui reflète sa gloire, sa beauté, qui reflète le Seigneur. Et quand mon corps est rempli de cette joie qui est au service de Dieu plutôt qu'au service de mes ambitions, de moi, alors là, je glorifie Dieu. Dieu veut que mon corps soit sain. Jésus veut que mon âme soit sainte. Dieu le Père veut que mon esprit soit vraiment à sa place, à faire son travail, trouver de nouveau son rôle. Alléluia. Et donc, il est vraiment important que nous apprenions à travailler avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lui dire, oui Seigneur, viens. Viens que mon esprit vraiment grandisse, que mon esprit prenne de plus en plus de place, que mon esprit ait cette communion avec toi, que je sois rempli de cette espérance, que je comprenne quelle est ta volonté, l'appel que j'ai sur la terre, quelle est ma mission. Je ne veux pas passer à côté, je veux vivre sur la terre. La terre, il y a un seul temps, il n'est pas long le temps. Encore plus on vieillit, plus on trouve qu'il court, qu'il est devenu de plus en plus court. On dit, non, Seigneur, il y a tant de choses à faire, tant de choses à faire. C'est-à-dire racheter le temps. Racheter le temps, le temps est précieux. Et le Seigneur veut qu'on travaille vraiment corps, esprit et âme, et avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia! Quand on pense à Dieu, on peut penser à des mots comme une ardente charité, une grâce abondante, un amour infini, une joie ineffable et glorieuse, une joie parfaite, des richesses incomparables. Que cela couvre, lorsque tu ramènes une âme, cela couvre une multitude de péchés. Il y a une grande rémunération. Dieu a, avec lui, c'est jamais petit, toujours grand. Joie ineffable, toute joie, toute foi. Une foi qui déplace les montagnes. Dieu est un Dieu qui est grand, qui est puissant. Qui veut vraiment goûter à cette grâce abondante, à cette joie ineffable? Et ça, au quotidien, alléluia! Au quotidien, dans psaume 36, oh j'aime ce psaume, ça dit « Ta bonté, Seigneur, a les dimensions du ciel. Ta bonté a les dimensions du ciel. Ta fidélité atteint jusqu'au nu. Je me rassaisis de l'abondance de ta maison. Je suis abreuvé au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, je bois la lumière. » Beaucoup de chrétiens se lèvent le matin et ne comprennent pas la bonté qu'a les dimensions du ciel, la fidélité qui s'étend jusqu'au nu. Ils ne vont pas s'abreuver au torrent des délices au quotidien. Alors, ils se lèvent le matin, ils sont de mauvaise humeur, ils vont travailler, ils sont à la dernière minute, ils courent, il y a le bouchon, ils sont fâchés, le chien a mordu le facteur a engueulé la femme. En tout cas, ils arrivent, c'est des blagues, ça. Ils arrivent au bureau, ils sont, ça va pas bien, ils sont fâchés, ils reviennent, il y a rien qui va, la journée a été moche et tout. Et puis ils vivent comme ça, jour après jour, jour après jour. Et il y a peut-être l'autre chrétien qui se lève le matin, qui dit, Seigneur, je m'en viens ce matin découvrir ta bonté. Oh Seigneur, je veux entrer dans ta bonté, ta fidélité, je sais que tu es fidèle. Ah, je suis pas parfait. Mais je sais que ta fidélité, elle s'étend jusqu'au nu. Je sais que ta grâce est sur moi ce matin, elle est abondante, surabondante. Et je veux entrer dans cette grâce. Je veux que ta joie soit dans mon cœur ce matin, une joie ineffable. Et je veux débuter ma journée avec cela. Alors le Seigneur, tu peux pas faire autrement. Il nous a bénis, il veut qu'on soit fécond, que la vie jaillisse de notre vie et que tout ce qu'on va faire dans la journée est cette empreinte de sa gloire, de sa bonté, de sa fidélité. On était appelés à être de ceux qui annoncent les attributs de Dieu. Alors, il faut goûter à la bonté de Dieu pour pouvoir raconter aux autres sa bonté. Il faut goûter à sa fidélité pour pouvoir dire aux autres, « Mon Dieu est fidèle. » Il faut que vous ayez cette relation avec Dieu pour que les autres remarquent que vous servez un Dieu qui va au-delà de votre capacité humaine. Alléluia! Alors, donc, il faut commencer à vivre. Et beaucoup de chrétiens sont pris dans leurs mensonges, ils sont pris dans leur voix. Et ils demandent des choses au Seigneur et ils n'ont pas. Ils disent, « Seigneur, je te demande des choses, je t'ai demandé ceci, je t'ai demandé cela, et tu m'as pas donné. Pourquoi? Et je suis un peu fâchée après toi. » Et alors, il y a ce désespoir qui a commencé à entrer dans le cœur des gens. Pourtant, Dieu veut que vous soyez, que vous abondiez en espérance. Donc, le désespoir ne vient pas de lui. La tristesse ne vient pas de lui. Dieu veut que vous soyez dans une joie ineffable, dans une joie qui va au-delà de tout. Alors, donc, il est important de saisir, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi je ne vis pas tout cela? Pourquoi il n'y a pas cette fécondité dans ma vie, cette multiplication qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne suis pas là en train de remplir la terre? Je ne suis pas en train de dominer sur les circonstances de ma vie. Pourquoi je ne suis pas là comme avec tout ce que Dieu me promet? Pourquoi je ne vis pas, je n'entre pas dans ses promesses? Et je veux aujourd'hui que vous chassiez tout ce qui peut vous empêcher de goûter à la bonté de Dieu, à la joie de Dieu, à tout ce que Dieu a pour vous dès aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment vivre comme ça, que les gens le remarquent. Dans Osée, chapitre 10, verset 12, ça dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Car vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé les fruits du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. » Alors, ce sont des phrases qui parlent, il parle au peuple de Dieu, et je pourrais dire qu'il parle aux chrétiens. Nous avons, il dit, il est temps de chercher l'Éternel, il est temps de travailler dans un nouveau champ. Parce que notre champ, peut-être auparavant, nous avons, c'est dit, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, tu as eu confiance dans ta voix. Bien des fois, on a fait des choses, on a demandé à Dieu par rapport à notre égoïsme, par rapport à nos peurs. On avait peur d'être rejeté, on avait peur de ce que les autres allaient dire, on avait peur du succès de l'autre. Et alors, on a commencé à prier Dieu en disant, « Hey Seigneur, je vois que l'autre a plus de succès que moi. » Non, 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 Seigneur. Seigneur, fais que j'ai cet emploi. Fais que j'ai ceci, j'ai cela. Et c'est tout. Les motivations de notre cœur étaient des motivations qui étaient mal. Et on dit, Dieu, toi qui es plein de bonté, toi qui es plein d'amour pour moi, accorde-moi cela. Donne-moi cela pour que je montre aux autres que je suis meilleur. Pour que je sois vengé dans cette situation. Pour que tu punisses un tel. Pour que tu montres que c'est moi qui est bien. Et on demande des choses à Dieu et on travaille là-dedans. Et Dieu nous résiste, il ne nous donne pas ce qu'on lui demande. Alors il ne nous donne pas ce qu'il nous demande, on est fâché après lui. Et on dit, mais pourquoi tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela, Seigneur, je t'ai demandé. Puis après ça, on boude Dieu, on est un peu fâché après lui. Puis on dit, bon, mais dorénavant, je vais faire les choses à ma manière. Mais Dieu est un Dieu qui est bon. Et justement, il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est un Dieu qui nous aime trop. Dieu chérit l'Esprit qui est en nous. Jésus aime tellement notre âme qu'il ne va pas la nourrir avec du poison. Il va pas lui accorder du mal. Il va pas lui donner ce qu'elle demande lorsqu'elle demande quelque chose qui va la détruire, qui va l'enlaidir. Alors ils vont résister à cela. Ils vont pas donner ce qui est mauvais pour nous. Et étant il y a aussi longtemps que nous croyons mensonges qu'il y a en nous, il y a, vous savez, des siècles de mensonges qui ont été véhiculés dans notre culture. Des siècles de mensonges dans lesquels que finalement le mensonge est devenu vérité pour nous. Nous croyons que cela est juste et quand c'est vraiment injuste. Dieu dit, mais vos pensées ne sont pas mes pensées. Réformez vos voies, changez votre manière de penser, apprenez mes pensées. Cessez de marcher dans l'iniquité. Et l'iniquité, souvent, ce sont de la rébellion qui ont passé de génération en génération et qui est maintenant font partie de notre être. C'est tellement fort en nous qu'on croit que c'est normal, que c'est juste. Mais Dieu dit non. Tu dois arrêter de mettre ta confiance dans les mensonges. Tu dois arrêter de mettre ta confiance dans tes voies. Apprends de moi. Apprends. Viens devant moi. Deviens un disciple. Un disciple qui, dès le matin, comprends que tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de fidélité, et que moi, ce que je veux, c'est que je veux t'enseigner ce qui va te rendre heureux. Je veux t'enseigner ce qui va finalement te multiplier. Oh, alors il est bon. Est-ce que vous voulez venir avec moi et plonger dans les dimensions de sa bonté ce matin, dans les dimensions de son amour, de sa fidélité, de sa grâce? Amen. Et vraiment, on va essayer de chasser tout ce qui nous empêche. Et que nous soyons un peuple qui goûte chaque matin la bénédiction de Dieu. Alors, rapidement, je vais parler du Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction. C'est-à-dire, Dieu les bénit. Dieu nous a bénis pour que nous soyons féconds. Dieu est un Dieu qui bénit. On le voit avec Abraham. C'est-à-dire, Dieu bénit Abraham et dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Est-ce que nous sommes la postérité d'Abraham? Oui, c'est d'accord avec ça. Nous sommes la postérité d'Abraham. Alors, ça dit, je vais multiplier ta postérité comme les étoiles. Alors, je marchais un jour, je dis, mais Seigneur, ça fait quand même des années que j'ai travaillé en France, hein, c'est pas évident, les Français, hein, sont entêtés comme les Québécois, parce que je crois qu'on est un peu pareil. Alors, je dis, oh là 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 là, la francophonie, hein, ils sont bien, bien durs. Et puis, le Seigneur, il dit, non, non, moi, ma parole, j'ai été promis que j'allais multiplier ta postérité comme les étoiles. Et j'ai regardé le ciel, et j'ai vu les étoiles. Et j'ai dit, Seigneur, combien de fois j'ai regardé aux Français plutôt que de regarder aux étoiles, à regarder à tes promesses? Et alors, j'étais remplie de joie. J'étais remplie de foi. Je dis, oui, Seigneur, la francophonie va être bénie par les chrétiens. La francophonie va goûter à la bénédiction. Et aujourd'hui, j'ai cessé de croire qu'ils sont entêtés. Je vais commencer à croire que nous allons les voir une multiplication dans leur vie. Oh, alléluia! C'est-à-dire, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies. Oh, moi, je veux voir toute la francophonie, que ce soit le Québec. Quand je suis venue en France, j'ai dit, mais Seigneur, le Québec, franchement, ils ont besoin de chrétiens, là. Pourquoi est-ce que tu nous envoies chez les Français? Il a dit, ah, moi, la stratégie de Dieu, hein, ce seront les Français qui vont bénir les Québécois. Je dis, ah bon, d'accord. Alors, il nous envoie en France et j'espère bien que vous allez aller faire un tour au Québec. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et pas seulement au Québec, hein, en Belgique, en Afrique, un peu partout où il y a des Français. Il y avait des Français en Chine et à un moment donné, on nous a demandé d'envoyer le séminaire du torrent qui purifie là-bas. Ils ont été tellement touchés. Il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons et tout. Alors, on peut même toucher des francophones en Chine. Alors, donc, il n'y a pas de limite, hein, partout. Et on doit vraiment être les héritiers de cette promesse. On doit saisir la porte de nos ennemis. Et non, le contraire. Souvent, c'est l'ennemi qui entre dans nos portes, qui entre dans nos cœurs, qui entre dans nos pensées, qui entre dans notre manière de voir les choses, qui entre dans notre famille, qui entre dans notre église. Mais c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit que c'est nous qui allons posséder la porte de nos ennemis. C'est pas aux ennemis à le faire. Donc, le matin, quand je me lève, je dois vraiment comprendre que c'est à moi à saisir la porte. C'est à moi à me tenir. C'est-à-dire, Dieu dit, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier et délier. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Lorsque mon Église se lève le matin et qu'elle saisit ses clés, elle dit, c'est moi qui ai les clés. Alors moi, si je prends une voiture et je mets les clés dans la voiture et j'impose les mains, je dis, voiture, vas-y, avance, roule. et que je vois la voiture qui ne roule toujours pas, je me dis, oh, cette voiture ne fonctionne pas. Non, mais où, mais il faut comprendre que c'est à nous les clés. C'est à nous à mettre le pied sur, hein, à partir. C'est à nous. On est là en train de demander à Dieu, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Mais tu les as, les clés. Tu les as déjà. Je t'ai déjà donné ce que tu me demandes. Apprends à travailler avec. Alors donc, il va falloir commencer à comprendre qu'on doit apprendre à travailler avec ce que Dieu nous a donné au lieu de continuer de prier pour des choses que Dieu nous a déjà données. Déjà, sa bonté, elle est là. Déjà, sa fidélité est là. Et c'est temps d'apprendre à l'épuiser. Nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Elles sont là. Elles sont à notre disposition. Jésus a payé le prix. Maintenant, c'est là. Chaque matin, je peux vraiment aller chercher toutes ces bénédictions. Oh, alléluia. Ça dit, ceux qui sont, Paul il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, ça dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est au présent. La vie est venue pour nous donner la vie. La vie, il est déjà venu, je veux dire, pour nous donner la vie en abondance. Avons-nous la foi? Saisissons-nous la promesse de Dieu? Parce que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui ont la promesse. Et maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'on a cette foi? Est-ce qu'on vit avec la foi que Dieu nous donne? Proverbes chapitre 6, verset 30-31, c'est dit, « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple et donnera tout ce qu'il a dans sa maison. » Laissez-vous le diable venir voler votre foi. Laissez-vous le diable venir voler vos bénédictions. Laissez-vous le diable venir vous tromper. Acceptez-vous à chaque fois qu'il vienne et vole chaque matin au travers des situations dans votre vie la foi qui vous permet d'être de ceux qui dominent, qui sont tout-puissants, qui reçoivent la bénédiction. Ça dit, la loi dit, on ne tient pas innocent le voleur. Si le voleur est venu voler votre joie, si le voleur est venu voler la foi, vous avez à l'emmener devant la justice de Dieu et lui dire, il doit restituer au septuple ce qu'il m'a volé. Alors, s'il vous a volé votre foi, il est temps maintenant, ce matin, de dire devant le juge, qu'il restitue ma foi au septuple, qu'il restitue ma joie au septuple, qu'il restitue cette grâce dans ma vie au septuple, qu'il restitue les bénédictions qui sont à moi, je les exige et maintenant je vais reprendre tout ce que Christ m'a donné. Alors, on ne tient pas pour innocent le voleur. Il est temps de cesser de travailler avec le voleur, de lui, d'être de pauvres victimes et dire, oh, il m'a volé. Vous avez la possibilité de venir devant le juge et dire, il doit restituer ce qu'il m'a volé. Cessez de devenir des gens qui sont victimes des situations de l'ennemi en disant, oh, regarde ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait. Hey! Non, il a agi, il vous a volé, vous avez le droit de venir. On ne tient pas pour innocent, il doit redonner. Alors, que dorénavant vos prières soient remplies de foi. Refusez des prières d'incrédulité, refusez des prières. Oh Seigneur, si tu le veux, peut-être que tu peux. Je ne sais pas si je suis assez bon, si je suis assez bien. Je ne sais pas si tu es capable de faire ça. Ça, ce n'est pas des prières de foi. Ce n'est pas des prières de foi. Quand vous avez une parfaite foi dans la bonté de Dieu, quand vous avez une parfaite foi dans sa fidélité, quand vous savez que Dieu, il est bon, il va faire les choses vraiment à la perfection, vous pouvez vraiment prier avec foi. Seigneur, je sais que tu vas agir, je le sais, et je me réjouis déjà de comment tu vas le faire. Alléluia. Et alors, au matin, chaque matin, je dois me lever, chaque matin, je dois me lever les yeux grands ouverts. Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui? Ça dit qu'il veut nous couronner de bonté. Moi, chaque matin, je me dis, Seigneur, ma couronne, s'il te plaît, ma couronne de bonté, je vais marcher ce matin avec cette couronne de bonté. Alors, quand il m'arrive des pépins, des situations, je vérifie si ma couronne est bien là. Je dis, non, elle est là, ça va. La couronne, sa bonté, elle a les dimensions du ciel. Alors, je dis, non, pas de problème. Elle est là, elle tient bien, donc je peux vraiment continuer ma journée. Mon Seigneur va pourvoir, il va transformer les choses au bien. Je sais que l'ennemi est tout petit, hein, notre Dieu est tout grand. Alors, j'ai confiance. Et ce qui fait que, qu'importe, les gens ne réussissent pas souvent à me déstabiliser. Je fais juste vérifier si la couronne est là. Dorénavant, vous faites ça? Dorénavant, alors les yeux grands ouverts, vous attendez la bonté, vous attendez les promesses, vous êtes le cœur plein d'espérance. Qu'est-ce que le Seigneur a pour moi aujourd'hui? Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 49, verset 8. C'est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Et bon, je les conduirai dans les sources d'eau. » Alors, je vais continuer rapidement, verset 22, ça dit, « Je lèverai ma main vers les nations. » Donnez-moi une nation que vous avez à cœur. Comment? La France! La Guadeloupe! Vietnam, Togo! Madagascar! Haïti! États-Unis! Congo, Martinique! Bretagne, l'Alsace, alléluia. Je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, leurs princesses tes nourrices. Ensuite, je continue au verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera. Ça, ce sont des promesses de Dieu qui donnent au futur. Il dit, je t'exaucerai, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière, le butin du puissant lui sera enlevé. Mais maintenant, tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6. Vous allez voir. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, alors Nathalie, Pasteur André, d'autres, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons aujourd'hui le 20 novembre à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Maintenant le futur est venu au passé. Je t'ai secouru, je t'ai exaucé. Aujourd'hui, le temps favorable. Aujourd'hui, le jour du salut. Aujourd'hui, cessez d'être comme les pharaons. Ils disent demain tu viendras enlever la plaie. Demain, non, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Chaque matin, je dois venir dans la présence de Dieu. Je dois venir et je dois dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour pour moi d'être fécond. Aujourd'hui, c'est le jour pour multiplier, pour remplir. Aujourd'hui, Père, travaille avec mon esprit. Fils, travaille avec mon âme. Transforme-moi, change-moi. Je vais être transformée dans ton amour. On a chanté ce chant. Je suis transformée dans son amour. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est le jour pour moi d'être sauvée. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour moi. Aujourd'hui, je ne gaspillerai pas ce jour. Je vais vivre avec le Seigneur dans ce qu'il a pour moi. Aujourd'hui, je vais laisser le Saint-Esprit travailler avec mon corps. Aujourd'hui, je vais utiliser ma bouche pour manifester les dons du Saint-Esprit. Je vais utiliser mes mains pour manifester les dons du Saint-Esprit. Je vais utiliser vraiment toute sa puissance pour aller de l'avant, avoir cette énergie. Alléluia. C'est le temps pour, de se lamenter, le temps pour dire, « Oh, mon mari a fait ceci, ma femme a fait ceci, mon fils a fait cela, il y a ce problème au travail, il y a ceci, il y a cela, ça ne va pas bien. » Ça doit être résolu, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le temps pour vous de transformer les choses. Aujourd'hui, c'est le temps pour vraiment être fécond, de laisser vraiment l'œuvre du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de se manifester dans votre vie. C'est le temps vraiment de les laisser agir dans vos vies et de glorifier, de le glorifier. Quand on dit, oh, mais j'ai demandé et Dieu n'a pas fait, oh non, mais bon, c'est fini là. Dorénavant, je vais faire les choses par mes propres forces, de ma manière. Mais non, c'est tant pis pour vous. Non, c'est vraiment, si vous dites, je ne veux pas travailler avec le Seigneur aujourd'hui, j'ai demandé, il a pas accordé, alors c'est vraiment tant pis pour vous. C'est vraiment tant pis pour l'Église, c'est vraiment tant pis pour ce pays, c'est vraiment tant pis pour les nations qu'on a dit. C'est arrêter de vivre dans essayer par vos propres forces. Quelquefois, on a pas eu ce qu'on a demandé et on est en train de juger notre Dieu pour cela. Et on est là vraiment incapable de comprendre la grandeur, la stratégie, la puissance de Dieu. Et on ose juger notre Seigneur. Et il est temps de vraiment apprendre, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, je ne saisis pas. Mais aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Tu vas m'éclairer, tu vas me montrer, tu vas m'expliquer. Et ou encore, tu vas, vraiment, je te fais confiance dans cette situation. Tu vas, en son temps, tu vas me révéler ta gloire. Ça dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire... Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Mon âme ne prend pas plaisir. Moi, je veux faire plaisir à Dieu. Voulez-vous faire plaisir à Dieu? On veut faire plaisir à Dieu. On ne se retire pas. On va continuer par la foi. Il y a des choses qu'on n'a pas saisies. Mais peut-on vraiment saisir toute la dimension du ciel? C'est impossible. Tout le plan de Dieu. Dieu agit et il est temps d'être vraiment des disciples qui se laissent corriger, instruire chaque matin. C'est-à-dire, chaque matin, le disciple vient au pied pour écouter et recevoir instruction. Alléluia. Donc, aujourd'hui, rappelez-vous, notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et notre Dieu veut nous bénir aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, le temps favorable. Ne laissez plus jamais le voleur prendre ce qui vous appartient. Que vos prières dorénavant soient remplies de foi. Reprenez toutes les bontés que le Seigneur a chaque jour. Bon, le temps file. Notre Dieu, Seigneur, multiplie les minutes. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Alors, soyez féconds et multipliez. Dieu veut que nous multiplions. C'est sa volonté. C'est son désir. Tournez avec moi dans 3 Jean. Chapitre 2, le troisième épître de Jean, chapitre 2. Il est dit, il parle à Gaius, le bien-aimé. Qui est le bien-aimé de Dieu ici? Ah oui! Il y en a qui ne sont pas bien-aimés. Il y en a qui sont bien-aimés. On est les chouchous de Dieu. Dites, je suis le chouchou de Dieu. Ah, je suis la bien-aimée. Je suis la bien-aimée. Dites, je suis vraiment le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Dieu sait comment nous aimer. Il nous aime bien. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et après, on voit que ce Gaius, cet ancien, agit fidèlement selon la vérité, qu'il aime la vérité, qu'il agit selon la vérité, qu'il accueille les gens et qu'il œuvre avec ceux qui travaillent avec la vérité. Et Dieu veut vraiment le faire prospérer, mais à tous égards. Il veut le faire prospérer dans sa vie spirituelle. Je vous ai parlé de comment Dieu veut vraiment nous faire prospérer dans notre esprit. Il veut qu'on ait de plus en plus de révélations, cette intimité avec Dieu le Père. Il veut que nous commencions à connaître cette vérité qui change notre manière de penser. Il veut que nous ayons cette relation avec lui qui nous dirige et qui fait que nous comprenions les choses. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Père. On est, au lieu d'être sous les problèmes, on est au-dessus des problèmes. On a une vision beaucoup plus grande de ce qui se passe. Et c'est ce qu'il veut. Il veut que vous prospériez dans votre vie spirituelle, que vous ne soyez pas des gens qui tâtonnent dans la confusion quotidienne. Il veut que vous soyez bénis au sein de votre famille. Vous savez, Abraham, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Un jour, le Seigneur m'a dit ça à ma famille. Il a dit, Nathalie, toutes les familles. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Et à partir de ce moment-là, je me suis levée. Moi et ma famille, nous allons servir le Seigneur. Moi et ma famille. Et alors, on est devenu famille d'accueil. On a commencé à prendre soin des adolescentes. Ensuite, des adolescentes qui étaient enceintes. On s'est retrouvés, des fois, à la maison, elle était. Il y en avait partout. Il y en avait même dehors qui dormaient dans une tente de camping, tellement la maison était remplie. Et à un moment donné, le Seigneur, il a dit, c'est bon, Nathalie et toute la famille, toute la famille, François et toute la famille, ça passait par François avant. On vous envoie au Colorado. Et au Colorado, à un moment donné, le Seigneur dit, vous allez aller en France. Et la France, pour nous, c'était un autre continent, un autre monde. C'était presque inimaginable. Et puis, alors, le Seigneur, il a décidé que cette situation de foi allait se faire publique. Toutes les églises, des centaines et des centaines d'églises étaient au courant qu'on allait partir en France. Et j'ai dit, Seigneur, ça devrait être juste toi, entre nous et toi. Je ne veux pas que les autres regardent, parce que pour nous, on n'avait jamais mis les pieds dans un autre continent, donc on... Alors, on dit, mais non, mais si on s'est trompé, ça fait beaucoup de monde qui rit, toi. Hein? Ça fait beaucoup de monde qui se moque. Et j'ai dit, Seigneur, le Seigneur a dit, Nathalie, je veux que toutes les familles de la terre soient bénies en toi, en ta famille. Et alors, on a osé, on a donc attendu. Et vous savez, les gens nous disent, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et on dit, non, on veut être à l'écoute de comment Dieu veut faire les choses. Et alors, Dieu ne fait pas les choses comme on aimerait, hein. Ce n'est pas toujours rapido, hein. On voudrait, comme ça, Seigneur. Non, il nous a fait faire un tour avant dans les États-Unis, ensuite nous a envoyé dans un petit coin perdu, dans le bois, vous savez, Québec, il y en a de la forêt, elle est à perte de vue. Bon, il nous a envoyé perdu dans un endroit où personne ne venait, il fallait laisser la voiture à des kilomètres, il fallait marcher dans la neige avec des raquettes, vous savez ce que c'est des raquettes, avec une traîne sauvage, vous savez ce que c'est une traîne sauvage, une luge. Bon, mes anciens mots reviennent. Et puis, il nous avait envoyé dans un endroit où il n'y avait même pas d'eau chaude, donc d'eau courante. Donc, François allait chaque matin avec la hache enlever la glace sur le lac. Il allait puiser l'eau. Et alors, pendant des mois, on était là, on se dit, comment Dieu agit? On ne comprend pas. On est là, tous les jours, on se lève et on attend. Puis un jour, Dieu dit, OK, allez-y. Et là, quand il dit, OK, allez-y, c'est tout de suite, là, dépêchez-vous. Alors, c'est comme, il agit comme ça pendant des mois, on attend. Après ça, quand il dit, allez-y, levez-vous. Et alors là, tout d'un coup, il pourvoit. Tout arrive. L'argent, tout arrive. Boum, 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 boum. Et oups, on arrive en France, les deux pieds. On dit, ah, on est là. Et alors, toutes les familles qui regardaient notre aventure pendant des mois, ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu agir. Et après, on a été bombardés de lettres. Ils ont dit, oh, Dieu nous avait demandé de faire ceci, faire cela. On est maintenant obéissant, on est parti, notre famille, on a cru. Et notre famille, on est parti où Dieu nous a demandé. Et on recevait les lettres de toutes ces familles qui regardaient notre pèlerinage, qui étaient les témoins, et après, que ça les a libérés pour servir le Seigneur. Je dis, wow! Et quand le Seigneur nous a emmenés à Strasbourg, il a dit, j'ai commencé à prier pour Strasbourg. Je priais pour Strasbourg et Dieu dit, non, pas Strasbourg. Je dis, pas Strasbourg? Non. Il dit, je veux toutes les familles de la France, toutes. Je dis, toutes? 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 Je dis, ah bon? Alors j'ai commencé à prier pour toutes les familles de la France. Bon, au tout début, je dis, Seigneur, aide-moi, étire-moi. Et puis là, j'ai commencé à prier pour toutes les familles. Puis après, il y a quelques années, je suis allée en Hollande et Dieu a dit, Maintenant, Nathalie, tu es prête? Pas toutes les familles de la France. Je veux... Il dit toute la francophonie. Toute la francophonie. Je dis, toute la francophonie. Alors, j'ai peur qu'un jour, il vienne me dire, Nathalie, pas toute la francophonie, toutes les nations. Mais bon, je crois que Dieu peut utiliser. Il a utilisé Abraham. Il peut nous utiliser. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui ont changé leur histoire. Vous connaissez ce chant pionnier de l'histoire de ce pays. Moi, oui, je veux être pionnier de l'histoire de ce pays. Vous ne connaissez pas? C'est un beau chant. Oui, ça dit, oui, je veux être pionnier de l'histoire de ce pays. Et je crois, oui, je crois que les rois vont trembler. Et je crois que le peuple de Dieu va être embrasé par la vérité. Et je crois que les morts vont revivre. Et je crois que les blessés vont refaire notre histoire. Oui, je crois que les aveugles vont voir. Et je vais me tenir près de Dieu. Oui, je crois, oui, je crois. Vous savez, moi, je suis la fille d'un pionnier français, hein. Alors, un jour, il y a 300 ans, il y a ce pionnier français, et peut-être son époux, je sais pas. Il a osé braver les tempêtes de la mer. Et puis, il est arrivé au Canada, dans la neige, par-dessus la tête. Hein. Il a passé au travers des intempéries de ce pays de froid qui peut, des fois, avec le vent, faire de moins 50, moins 60, hein, avec le froid, avec le vent. Et puis, après ça, il a eu à affronter les Indiens. Puis, il y a eu des bons Indiens qui sont aussi venus les aider. Puis, après ça, les Anglais sont venus conquérir leur territoire. Et le roi les a abandonnés. Il dit, pour quelques arpents de neige, on va laisser ce pays. Mais pour quelques arpents de neige, ce pionnier a dit, moi, je vais me battre pour ces quelques arpents de neige. Et ces quelques familles, aujourd'hui, de ces quelques familles abandonnées au Canada, ils sont des millions et des millions et des millions. Alléluia! Parce qu'ils ont osé se battre, ils ont osé persévérer. Mais moi, je me bats pas pour quelques arpents de neige. Je me bats pour le territoire que Dieu me donne. Dieu, il a dit tout ce que ton pied va fouler, c'est à toi, je te le donne. Alors, on peut se battre pour notre terre, toutes les nations. Ça vaut la peine. Et ça dit dans Ésaïe 54, ça dit, ta postérité va envahir les nations. Ça dit, tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Moi, je crois que de nous, des millions et des millions vont envahir toutes les nations et peupler. Et peupler les endroits, les églises qui étaient jusqu'à ce jour désertes. On va avoir les églises être remplies. On ne pourra pas avoir de bâtiments. On pourra avoir, parce qu'il va y avoir trop de monde. Trop de monde. Croyez-vous cela? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Oui, je le crois. Et c'est aujourd'hui que je vais travailler pour mon demain. Aujourd'hui que je vais conquérir ce que le Seigneur a pour moi. Aujourd'hui, je vais oser travailler avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais laisser m'apporter ces révélations. Je vais laisser vraiment cette postérité. Je vais être une famille qui va vraiment être une source de bénédiction. Je vais croire que mes finances, je vais croire que mes entreprises, que tout ce que je vais entreprendre vont vraiment réussir. Le Seigneur veut pas qu'on envahisse seulement dans le domaine spirituel, mais même dans tous les domaines, que ce soit médical, que ce soit politique, que ce soit la nourriture, en tout cas, tous les domaines. Et souvent, on laisse les autres inventer, créer, et c'est eux qui font des avancées, quand nous, on devrait faire des avancées, que nous, on devrait vraiment laisser le Seigneur nous révéler des choses et amener des solutions, amener, mais on n'est pas intéressé, on fait juste critiquer. On fait toujours en train de critiquer le gouvernement, en train de critiquer la manière de faire les choses, plutôt que de dire, Seigneur, je peux être la réponse, tu es la réponse, toi, et tu vis en moi. Et maintenant, Seigneur, je veux, moi, être la solution à ce problème. Je veux commencer à travailler. Et que, quand je vais à mon travail, je ne vais pas séparer mon travail de ma vie spirituelle. Je sais que quand je vais travailler, c'est toi que j'amène au travail. C'est l'Esprit Saint que j'amène au travail. C'est le Père que j'amène au travail. Et alors, on va vraiment secouer, déranger, changer les choses. Alléluia! Alléluia! Oh! Bon, je vais sauter à notre Dieu on a dit multiplication. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen! Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et ça aujourd'hui. Et notre Dieu est un Dieu de, Il est le maître de la moisson. Il est le maître de la moisson. Il y a cette phrase qui dit, dans Genèse chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Un jour, je suis allée à une conférence, ils avaient étudié les temps du réveil, et puis donc, ils avaient prophétisé que le prochain réveil serait en l'année 65, quelque chose comme ça. Plus que ça. Quoi? Là, j'étais... je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour de se réveiller, hein, je crois, aujourd'hui. Et je dis, pas question, je veux pas croire qu'un jour, il va y avoir un réveil. Je veux, moi, être celle qui vit le réveil. Notre Dieu est le Dieu de la moisson. Ça dit tant et aussi longtemps que que ça va marcher. En tout cas, il dit, il va toujours avoir la moisson. Il sera toujours là, les semailles et la moisson. Donc, Jésus dit, levez les yeux. Levez les yeux, la moisson, elle est déjà là. Elle est là. Souvent, on dit, Seigneur, et on est centré sur notre petit nombril. Oh, Seigneur, moi. Et vous savez, les disciples, à ce moment-là, ils pensaient qu'à manger. Hein? Vous connaissez l'histoire dans Jean. Ils avaient été chercher de la nourriture, et puis ils disaient, bon, il faut manger. Et Seigneur Jésus, mange. Et Jésus dit, hé, levez les yeux, la moisson, elle est là. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Arrête de penser que Dieu, elle est là pour faire toujours ta petite... Prendre soin de ton petit toi, ton petit moi, ma nourriture, moi. Seigneur, tu es là pour bénir. C'est vrai, Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec cette bénédiction? Il veut qu'on soit fécond. Il veut qu'on touche les autres. Mais nous, souvent, c'est la bénédiction, elle est pour moi. C'est pour moi. Et Jésus dit, non, il dit, moi, je vais être rassasié. Je vais être bien quand je vais faire la volonté du Père, quand je vais parler de toi, quand je vais voir les autres venir au Père. Alléluia! C'est comme ça que je vais être rassasié. Et alors il dit, levez les yeux, c'est là. Et ensuite, il dit, je vous envoie moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et nous entrons dans leur travail. Celui qui moissonne reçoit un salaire et ramasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Lorsqu'on ramasse les âmes, et j'espère que la Thanksgiving, vous allez être de ceux qui ramassent cette moisson. J'espère que vous allez vous réjouir. Ne laissez pas passer la moisson en disant, « Oh, la dinde, c'est pour moi. Je veux être bénie. Moi. Oh, ma dinde, oh, c'est bon, la sauce. C'est bon. » Et vous ne regardez pas autour de vous. Et non. Pensez pas à manger le jour de la Thanksgiving. Pensez à récolter. Et c'est la moisson. Pensez pas à côté de la moisson. Laissez pas la moisson passer. Dites, « Oh non, ma nourriture... » En ce 25 novembre, ça va être de récolter la moisson. Oh, je vais me réjouir. La dinde, ce sera demain. On la fera réchauffer. Alors, c'est comme ça. Et cessez de chercher les bénédictions que pour vous. Dieu veut vous bénir pour que vous soyez une source de bénédiction. Que vous puissiez... Là, vous allez voir des gens venir. Vous n'avez peut-être jamais travaillé. Vous dites, oh, je ne la connais pas. Je n'ai jamais travaillé dans sa vie. C'est pas ma moisson. Ah, Jésus dit, je vous envoie récolter dans la moisson de ceux qui ont semé avant vous. Ah, ne la laissez pas tomber, cette moisson, récoltez-la, sinon elle va être gaspillée. Récoltez, prenez-la. Et vous allez semer dans la vie de d'autres, et ce seront d'autres qui vont peut-être récolter. Mais c'est comme ça. Alors donc, entrez, levez les yeux, cette semaine, levez les yeux, récoltez la moisson parce qu'elle est là. Alors, dans Colossiens chapitre 1, verset 9, ça dit, il faut être rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. On a dans Ésaïe 28, je prends vraiment encore juste 2-3 minutes, dans Ésaïe 28, ça dit « Connaissez les règles de l'agriculture ». Dans le monde naturel, lorsqu'on sème, est-ce que le lendemain, on va voir si la moisson est arrivée? Non. Est-ce qu'on sème n'importe quand, n'importe comment? Non. Il faut connaître certaines règles. On ne peut pas semer vraiment dans la neige. Il faut vraiment préparer la terre. Il y a toutes sortes de règles. Et on sait que si on sème des fois même telle semence à tel endroit, elle ne portera pas de fruits. Mais si on la déplace et on la sème ailleurs, elle va porter du fruit. Il y a des règles à suivre. Les agriculteurs connaissent ça. Et nous, dans le Seigneur, on est vraiment stupides. On fait du n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et on dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu bénis pas, là? Pourquoi? Mais ça dit, soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Apprenez, recevez les instructions du Seigneur pour savoir comment semer, comment travailler. Le Dieu de la moisson, il est le maître de la moisson. Il sait comment faire les choses. Et nous avons besoin d'apprendre à travailler parmi la francophonie. Comment faire les choses, Seigneur? Comment semer? Quelle semence faire? Comment utiliser? Et alors, le Seigneur va nous instruire. Et on va saisir et on va savoir. Il y a des saisons à attendre. Il y a des saisons qui sont propices. Et avec cela, on va pouvoir vraiment réussir. Je voudrais juste vous montrer ici des petites semences. Alors, pouvez-vous la voir? Pouvez-vous la voir? C'est une semence. Bon, je voulais vous amener le fruit, mais finalement, ce n'était pas possible. Alors, bon, j'en ai plusieurs ici. Elles sont toutes petites, vous voyez? Bon, je vais les remettre dans son sachet. Bon, alors, elles sont un peu partout. Alors, toutes celles qui sont tombées, ben, normalement, elles ne produiront pas de fruits parce qu'elles n'ont pas tombé dans le bon endroit. Mais ce sont des choux. Alors, avez-vous vu? Déjà vu un chou alsacien. Alors, je vais vous raconter une histoire de pêcheurs. Ils sont gros comme ça. Non, bon. Ils sont gros comme ça. Comme ça. Alors, je ne pouvais pas la porter dans ma valise. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je veux dire, la porter comme ça. Gros chou comme ça. Regardez-moi. Regardez-moi ce qu'on sème pour faire quelque chose aussi énorme. Ah! Oh, mais c'est inimaginable. On ne peut pas comprendre. C'est les lois de Dieu. Dieu, une petite semence va produire si elle est semée au bon moment, au bon endroit, dans la bonne terre, elle va produire quelque chose comme monstrueux comme ça. Alors, on doit apprendre à semer avec la sagesse de Dieu. On doit travailler avec notre Seigneur. On doit comprendre quels sont les temps. Il y a des temps pour la moisson qui est tout de suite. Il y a des temps pour préparer la terre pour d'autres. Il y a un temps après, un temps pour travailler nos instruments. Hein? Il y a un temps pour se reposer. Et avec moi, je viens de la campagne, hein, du Québec. On était des gens de la ville qui sont arrivés à la campagne. Alors, on admirait les cultivateurs et tout. On voyait les cultivateurs en hiver, ils allaient en Floride se faire bronzer sur les plages. Mais en été, 3 heures du matin, dans le champ, ils étaient seuls. On voyait la petite lumière dans le champ. Ils travaillaient. L'été, l'automne, et puis après ça, la moisson. Et le Seigneur veut qu'on apprenne à travailler avec lui dans sa moisson. Comment travailler avec lui dans sa moisson? Il va faire des choses au-delà de ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Incroyable! Comment une petite semence comme ça peut produire des choses? Quand vous allez voir la moisson, vous dites, c'est moi qui ai fait ça? C'est moi? Seigneur, c'est au-delà de ce que j'aurais cru. Alors, est-ce que le réveil s'en vient en l'année 2000, je ne sais pas quoi? Non, elle est là. Il est déjà là pour des personnes, déjà là. Prêt, cette semaine, il y a des hommes et des femmes qui ont à être moissonnés pour vous. Mais il y a du travail à faire pour la moisson de demain et après-demain. Il faut savoir qu'il y a le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, la nuit et le jour. On doit travailler avec les saisons de Dieu, on doit travailler avec comment il a mis ses lois. Mais une fois qu'on travaille avec lui, on va voir quelque chose de glorieux. Glorieux, magnifique, magnifique. Alléluia. Alors, je vais terminer ici. Voulez-vous vraiment, aujourd'hui, venir au Seigneur pour goûter à un Dieu qui bénit, un Dieu qui multiplie, et le Dieu, le maître de la moisson, qui nous instruit comment travailler dans sa moisson. Amen. Alors, si ce matin, vous avez envie de recevoir, je peux prier pour ceux qui disent, jusqu'à ce jour, j'ai cru au mensonge, j'ai semé peut-être dans une voie qui était la mienne, et j'ai été peut-être résistant à Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vraiment goûter à sa bonté. Alors, j'aimerais simplement vous inviter à prendre un temps. On va prendre un temps pour prier les uns. Vous pouvez venir devant. On va prendre un temps pour prier. D'accord? Mais juste avant, Seigneur, on veut vraiment te demander pardon pour avoir cru, peut-être avoir semé le mal, moissonné l'iniquité, cru à nos mensonges, cru à notre voix et nous n'avons pas fait attention à la manière de faire les choses. Nous n'avons pas fait attention à tes instructions. Nous n'avons pas fait attention à l'œuvre que tu veux faire dans nos vies. On n'a pas fait attention à l'œuvre, Père, que tu veux faire dans notre esprit, à l'œuvre, Jésus, de nous transformer, de nous sanctifier, de nous purifier, de prendre soin de notre âme, pour que nous soyons avec toi, à tes côtés. Nous n'avons pas fait attention, Esprit Saint, de te donner notre corps, pour que nous soyons utilisés par toi au quotidien, pour que tu puisses toucher les autres, pour que tu puisses déverser tes dons dans notre vie, que tu puisses manifester tes fruits. Mais maintenant, aujourd'hui, nous te demandons pardon et aujourd'hui, nous croyons que c'est notre jour de salut, qu'aujourd'hui, c'est le temps favorable et nous revenons à toi. Et nous voulons travailler avec toi chaque jour que nous allons être sur la terre. Aujourd'hui, je vais travailler avec toi. Demain, ce sera un nouveau jour et je vais travailler avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, je refuse les mensonges de gouverner ma vie. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je refuse à ce que le voleur vienne voler ma foi, vienne voler la grâce, vienne voler ta bonté, ta fidélité. Et je vais réclamer tout ce qu'il m'a volé pour que mes prières soient remplies de foi, que je sois remplie de grâce pour les frères et les sœurs autour de moi, que je sois remplie de grâce pour ma propre vie, que je vais croire que, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as aimé pour que je sois avec toi. Je suis un bien-aimé. Et ton désir, c'est de me bénir, de bénir mon conjoint, de bénir ma famille, de bénir mon église, de bénir ma nation. Et je vais refuser que l'ennemi vienne détruire ma nation, ma vie. Alléluia. Pardonne-moi d'avoir travaillé avec le voleur, de l'avoir laissé faire. À partir d'aujourd'hui, je vais travailler avec toi, Père. Et je vais dominer. Je vais être féconde. Nous allons être fécondes. Nous allons multiplier. Nous allons remplir toute la terre et nous allons dominer sur toutes les circonstances et sur tous les domaines. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.